Salut Luc!
Salut!
Bon, écoute, tu veux parler de l'importance du sport pour les jeunes. T'es allé aujourd'hui à la patinoire avec ton gars. Moi, je suis allé marcher il n'y a pas très longtemps au parc La Fontaine. Puis, écoute, je regardais ça. Tout le monde était heureux. Il faisait froid, mais il faisait soleil. Il y a des gens qui patinaient, il y a des gens qui marchaient, promenaient le chien. Les parcs, là, quelle richesse naturelle!
Incroyable, hein?
On prend ça pour acquis, là, mais la personne qui a pensé à créer des parcs, à garder de l'espace dans une ville pour des espaces verts comme ça, cette personne-là, c'est un génie.
Fin du 19e siècle, Patrick. Fin du 19e siècle, là, c'est un mouvement mondial. Ça a commencé avec un parc à Londres. Après ça, il y en a eu à Paris. Un des premiers grands parcs, c'est le parc Central Park, 1874. Montréal suit pas tellement loin en arrière avec trois parcs qui ont été... trois terrains qui ont été achetés en même temps, dans la même année. Le parc La Fontaine. L'île Sainte-Hélène, le Mont-Royal et le parc La Fontaine par la suite. Alors... C'est un éveil. On se dit, la ville, c'est un endroit où on peut rester. Mais il y en a pas assez. Il faut... T'as vu combien il y avait de monde, tu sais, dans les parcs. Puis il y a des régions limitrophes aussi de Montréal qui refusaient les Montréalais parce qu'ils avaient peur d'être envahis.
Oui, les Laurentides, notamment.
Il faut revoir, tu sais, il faut créer des corridors de passage d'une rive à l'autre. Et c'est possible. Il reste encore un peu d'espace pour le faire. Regarde le canal de la Chine, ce que ça a donné. Ils n'ont rien fait, là. Ils ont mis trois pelletés d'asphalte sur le bord du canal, là, à une certaine année, là. Puis là, ils s'y mettent à avoir du monde, puis du monde, puis du monde. Écoute, c'est devenu une activité d'été extraordinaire et aussi, ça a requalifié tout un quartier. Donc, il faut penser à notre ville comme une oasis dans laquelle on veut rester, dans laquelle on veut faire des activités, on veut faire du sport, mais on veut aussi, des fois, juste se déplacer au quotidien, si possible. Et c'est pour ça qu'on a besoin de grands parcs, on a besoin d'accès aux rives, on a besoin de corridors de biodiversité, on a besoin de petits parcs locaux aussi, avec des patinoires, avec des terrains de volleyball, avec de la pétanque. On voit les gens sortir dans les parcs, on voit les gens pique-niquer dans les parcs, on voit les gens invités dans les parcs. On en a beaucoup, beaucoup besoin parce que la pandémie, elle ne partira pas. Elle va partir, mais elle va partir.
Luc, ça nous a montré en temps de pandémie que, écoute, faut aller dehors, puis quel meilleur endroit que les parcs?
Ben oui, absolument.
J'ai le virus, là, moi, s'il vous plaît, là, juste un message, excuse-moi, là, je vais faire un édito dans le milieu de ta chronique. Là.
Vas-y.
Arrêtez, s'il vous plaît, les gens, de mettre des photos, de prendre des photos dans les parcs, que ce soit le printemps ou l'hiver, et de dire, regardez, il y a plein de monde, on va être en pandémie encore longtemps. C'est pas grave quand on est dehors, à moins de se frencher là, entre inconnus, là. L'endroit le plus sécuritaire, c'est d'être dehors, même s'il y a beaucoup de monde. Il n'y a pas eu d'éclosion dans les manifs à Montréal. Il n'y en a pas eu dans ces grands parcs-là. L'endroit où tu veux que le monde se retrouve, c'est pas caché dans leurs appartements, c'est dans les parcs.
Bien, absolument. Bien, tu sais, bon, regarde, ça m'amène au sport. Ça m'amène à parler du sport dans les parcs puis du sport en règle générale. Il y a eu des directives. On voulait faire un effet de choc, puis on voulait dire, écoutez, là, il faut apprendre c'est quoi la distanciation, et puis tout est interdit. Et si la pandémie revient d'année après année, ou si elle ne part pas tout à fait, parce que c'est pas le monde entier qui va être vacciné, il y a des moments où elle va revenir, il y a des moments où les vaccins qu'on va avoir reçus vont être périmés, c'est-à-dire que leur effet va être périmé, il va falloir repasser à travers une vague de vaccination, puis ça prend des mois, donc ça va revenir. La prochaine fois, il faut qu'on soit plus nuancé. La prochaine fois, ça ne peut pas tout partir du bureau du premier ministre et de la santé publique à Québec. Ils ne peuvent pas décider pour tous les sports ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Parce que c'est pas la même chose. Une piscine, un sport, les arts martiaux, le ballet, puis une aréna, c'est pas la même chose. Et il faut qu'on donne plus de pouvoir aux fédérations pour que les fédérations sportives gèrent leurs patentes, puis dire voici comment nous, on va s'assurer, nous, aux personnes responsables, on va s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination dans notre sport. Et là, d'avoir fait cette interdiction-là mur à mur, comme du vilain tapis, ben ça fait que ça crée beaucoup, beaucoup de frustration et ça crée aussi beaucoup de dysfonction. Pierre Lavoie le disait, il a passé des années à promouvoir l'activité physique chez les jeunes. Pas certain que tous ces jeunes-là reprennent l'année prochaine. Clara Hughes, je ne sais pas si tu as vu le beau reportage sur Gaétan Boucher. Mon Dieu, moi, Gaétan Boucher, je l'ai dans...
Oui, notre champion olympique des années 80.
Écoute,
De patinage Sarajevo. De vitesse longue piste.
Hey, à Sarajevo, quand j'ai vu patiner avec deux espèces de grands Russes qui essayaient de l'attraper en arrière de lui, d'Allemands de l'Est, puis que c'est un Québécois qui est en train de gagner contre eux autres, j'en revenais juste pas. Mais Clara Hughes, dans cet article-là, fait un témoignage parce que elle avait 17 ans quand Gaétan Boucher a patiné à Calgary en 1988. Il n'avait pas performé parce qu'il était blessé, puis il était plus âgé, il avait 30 ans. Elle avait 17 ans, elle fumait, elle prenait de la dope. Elle était pas sérieuse pantoute à l'école, ni dans le travail, ni quoi que ce soit. Elle était en dérive. Et en voyant ce gars-là performer, elle s'est dit « Wow, un Canadien peut gagner ». Et elle s'est mise au sport, elle s'est transformée de A à Z. Et 3 ans plus tard, elle était méconnaissable et elle a donné quelque chose au sport. Alors, elle était la seule athlète féminine qui a gagné des médailles, la première athlète féminine ou masculine qui a gagné des médailles olympiques d'été et d'hiver. Et elle a donné quelque chose au sport qui n'est jamais plus, pas à ce niveau-là, en tout cas, qui n'est plus jamais revenu. Un sourire extraordinaire. Un sourire de qualité olympique. Là. Clara Hughes, c'est quelque chose de la voir sourire. Puis c'est devenu un personnage public. En tout cas, elle s'est inventée par le sport. Puis il y a des milliers et des milliers et des milliers de jeunes qui sont capables puis qui veulent faire ça aussi. Fait qu'on a besoin de plus de nuances. On a besoin de plus de décentralisation de la décision. On a besoin des fédérations qui prennent leurs responsabilités puis qui soient crédibles puis qui prennent des bonnes décisions pour la prochaine pandémie.
Et il y a quelqu'un qui me dit sur la messagerie, là, est-ce que vous allez à la marche de dimanche pour les jeunes sportifs?
J'y vais pas, mais je les encourage. J'y vais pas parce que je vais être en raquette, mais je les encourage.
En train de faire du sport.
Oui, je les encourage vraiment beaucoup à faire entendre leur voix de façon raisonnable et intelligente. Et est-ce que ça va être un masque? Est-ce que ça va être un double masque? Est-ce que ça va être des précautions dans les espaces non ventilés? Est-ce qu'on va faire des distinctions entre les sports en fonction du fait que c'est ventilé ou pas, extérieur ou pas? Est-ce que ça va être la distanciation? On est capable de mieux faire des choses que ce qu'on a fait jusqu'à présent.
Ton gars joue au hockey, écoute, il est tout petit, là, il doit être dans les atomes, quelque chose comme ça. Là.
Oui, première année atome, oui. Ben, il l'a raté, sa première année atome.
Oui, évidemment, c'est ça qui est plate. Mais parle-nous un peu de son rapport avec ce sport-là.
Bien, c'est formidable parce que, d'une part, c'est très, très, très formateur parce qu'il apprend la performance, se dépasser. Tu sais, c'est pas le cours d'éducation physique, là, le hockey. Hein. Des fois, il sort de là, son mauve. Là. Il apprend à se dépasser. Il apprend du fait qu'il n'est pas le meilleur. Il apprend il apprend le fait qu'il peut devenir le meilleur. Il apprend qu'il y en a qui sont extraordinairement concentré sur le sport puis qui en font tout le temps. Il a commencé à comprendre ça, là, qu'il y en a qui mettent énormément, énormément, énormément d'énergie. Puis lui, il se demande, moi, j'aimerais ça faire moitié musique, moitié sport, tu sais. Donc, il apprend le groupe aussi. Il apprend la discipline. Je trouve que c'est une dimension de la formation d'un enfant à côté de laquelle on peut difficilement passer.
Puis, es-tu meilleur que toi?
Il va être meilleur que moi. Mais quand j'étais jeune, j'ai arrêté bantam, là. Okay. J'étais pas bon, là. Puis je pense pas qu'on a ça dans le sang dans la famille, là, mais lui est plus grand, il est plus fort.
Mais tu vas voir, tu vas pogner. Moi, je me rappelle du moment précis là, où je jouais avec lui à patinoire. Il était pré-ado, là, disons, là, peut-être 13 ans, là. Puis je me suis dit, OK, l'année prochaine, il va être meilleur que moi.
Ah, c'est ça.
Écoute, puis c'est un drôle de feeling. Tu sais, c'est de la fierté, mais tu regardes au loin et tu dis, ouais, moi, mon déclin s'en vient.
Ben, ça a commencé dans les marches d'escalier sur le Mont-Royal.
Comment ça?
Ben, pendant des années, il voulait pas monter l'escalier au complet, tout ça. Puis cette année, j'étais pas capable de le suivre.
Ah, ouais.
Ouais. Dire, ah, misère, ça commence tôt, il me semble.
Ouais. T'as hâte de recommencer à pédaler et te remettre en forme. Hein?
Un petit peu.
OK. Hey, merci. Puis pour les parcs, Luc, c'est bijoux dans nos villes. Ben, y a quelqu'un qui m'écrit sur la messagerie qui me dit « Je vous écoute justement en prenant ma marche dans le parc du Cap-Saint-Jacques, un superbe endroit à Pierrefonds. » Fait que tu vois.
Tu sais que le Cap-Saint-Jacques qui va devenir le grand parc de l'Ouest, donc un des plus grands parcs d'Amérique du Nord, quand tous les territoires de ce coin-là vont avoir été liés ensemble, fusionnés ensemble, ça va être un parc extraordinaire. C'est déjà magnifique, le Cap-Saint-Jacques. C'est déjà fantastique, 332 hectares, mais ça va devenir encore plus exceptionnel.
Et on peut le dire, quand tu étais en politique comme responsable des grands parcs, tu as eu une patte là-dedans.
Oui, une petite patte.
Trop modeste, tu le dis pas, fait que je le dis à ta place. Bon week-end.
Merci, bye.